Du coq à l'âne.
Ok, 3, 2, 1, let's jam.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Coq à l'âne, numéro 759, mine de rien, pour ce mois de décembre. Alors, autour de la table, c'est une petite équipe, hein. On a eu beaucoup de défections. Voilà, Jean-Claude Héroux qui devait être là, Patrick Faure aussi, mais retenu professionnellement. Alors, eh bien, on s'est rabattu sur Pierre Lurouni. Qu'est-ce que je vous dise
pour le secours.
Et puis
l'homme de secours.
Et puis celui qui avait oublié le rendez-vous le mois dernier, enfin il y a deux mois, c'est Bruno André qui est avec.
Bonjour à tous. Bah oui, ça arrive, hein, des fois. On s'en mêle un peu les pinceaux avec l'âge et tout.
Heureusement.
On vieillit finalement.
Heureusement, nous avons notre invité qui lui est bien là. Et notre invité, c'est Élie Cordier. Salut Élie.
Salut.
Élie Cordier, donc candidat annoncé pour les prochaines municipales gapençaises. Et moi, j'avais déjà une première question. Est-ce que toi, tu vas réussir à trouver un accord avec les autres branches de l'opposition pour être le candidat de l'opposition, justement?
Les autres. On a trouvé déjà beaucoup d'accords puisqu'on a ce qui s'est jamais fait à Gap. Hein. On a une liste pour l'instant soutenue par deux des trois groupes d'opposition au conseil municipal, plus les socialistes, écologistes et communistes. Mmh. On a déjà un groupe bien cohérent. Il reste un dernier groupe qui hésite encore un petit peu, voilà, mais le dialogue est ouvert, on échange régulièrement, donc voilà, je vais pas...
C'est quoi le groupe qui hésite encore?
Pour Gap, le dernier, dernier des groupes au conseil municipal, donc on travaille après ensemble dans le cadre du conseil, après voilà, chacun doit prendre le temps qu'est le sien... Il y a des temporalités différentes pour les uns et les autres. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était pas attendre. Parce que battre Roger Didier, c'est pas une mince affaire quand même. Hein. Ça se fait pas en trois mois de campagne comme ça. Moi, j'y travaille quand même depuis le début du mandat. Donc là, c'est la candidature, c'est que la concrétisation de ce qu'on a déjà fait. Mmh. Mais j'ai pas trop de doutes sur le fait qu'on arrivera à avoir une liste unique.
Voilà. Ouais. Ouais, ça serait peut-être la meilleure manière de pouvoir espérer décrocher le Graal. Hein.
Mais ce qu'on a déjà... Ça s'est jamais fait jusqu'à présent municipal.
Ouais,
hein.
Ouais, ouais.
L'alliance, c'est l'accord qu'on a, donc c'est la base. Il manque la cerise sur le gâteau, je dirais. Donc, on va y arriver, on y travaille.
Messieurs, c'est à vous de jouer, puisque je vous avais demandé de travailler un petit peu, si vous aviez quelques questions éventuellement à poser à Élie.
Alors moi, je voudrais savoir comment on se prépare quand on a ton âge, parce que tu es quand même relativement jeune. Comment on se prépare?
J'aime bien le relativement.
Bah oui, oui.
Déjà, ça met un petit coup quand même.
Bah, quel âge alors?
27. Quel âge aussi?
C'est bon de s'engager à 27 ans aussi, avec autant de conviction. Comment on se prépare pour gérer une ville comme Gap, qui est quand même une ville? C'est quand même 50 000 habitants. Il faut avoir des idées sur l'urbanisme, sur avoir des idées à long terme sur la projection économique et le développement économique d'une cité. C'est pas si facile que ça. Comment on se prépare?
Moi, je suis jeune, mais j'ai des recettes classiques. C'est faut bosser, quoi. Je veux dire, c'est la seule solution. Donc moi, ce que j'ai mis en place, il y en a pas mal. Tu parles notamment de l'urbanisme, du développement économique. Déjà, il faut avoir les bonnes compétences dans l'équipe. Il faut savoir s'entourer correctement. Ça, on présente pas une liste pour faire plaisir, on présente une liste avec des gens qui, si on est élu, dès le lendemain, vont savoir gérer la commune, vont savoir assumer les responsabilités d'adjoints, de conseils municipaux, délégués. Ensuite, moi, j'ai fait tout un travail, et qu'on continue, hein, où, depuis le début du mandat, sans s'arrêter, on va voir les gapençais chez eux. Quoi. On fait du porte-à-porte. Moi, les deux dernières années, j'ai fait entre 400 et 500 jours de porte-à-porte dans un maximum de quartiers de Gap pour me présenter, pour leur montrer que c'est pas parce que je suis jeune que je connais pas les dossiers. Et après, au conseil municipal, je bosse sur les dossiers de fond, que ce soit Cristail, que ce soit la Rocade, que ce soit tout un tas de sujets gapençais. Faut bosser, faut se retrousser les manches. Et puis,
est-ce que tu arrives à avoir une connaissance assez fine de la gestion des collectivités locales? Parce que ça, c'est un vrai problème. C'est quand même un sérieux, c'est compliqué quand même. Hein. Moi, pour le vivre aujourd'hui sur le sujet de l'abattoir, je peux te dire que gérer une collectivité locale, c'est quand même très encadré. Il y a des lois, tu peux pas faire n'importe quoi. Il faut être au fait de tout ça, quoi.
C'est pour ça que
l'expérience au conseil municipal te fait peut-être.
Ça aide. Puis après, j'échange avec beaucoup d'élus et de maires des Hautes-Alpes aussi, hein, qui ont des communes alors plus petites, mais c'est les mêmes problèmes. Faut avoir de la compétence dans les services. Ça, ce sera un gros chantier, hein, à faire à Gap. C'est que dans les services, il y a eu beaucoup de départs, beaucoup beaucoup de démissions, beaucoup de personnes qui ont quitté les services de la ville à cause du management qui est en place. Donc déjà, bah, redonner un peu d'initiative et de liberté aux services. Aujourd'hui, il y a des délégations de signature. Les responsables de services à la ville de Gap, c'est des délégations de signature pour 100 ou 200 euros. Il faut acheter 8 ou 10 ramètres de papier. Ils n'ont pas la possibilité de le faire, il faut faire valider par le maire. Donc redonner un peu d'initiative, redonner de la liberté pour travailler dans le cadre, échanger avec les élus. Et après, c'est d'autant plus difficile aussi qu'il n'y a plus d'argent qui arrive de l'État, ou de moins en moins, de l'État, de la
région. C'est combien, c'est 1,5 million de moins, je crois, sur les recettes là, qui vont arriver.
A priori, alors il faudra voir le budget rectificatif qui sera trouvé en début d'année 2025, mais effectivement, sur la communauté d'agglomération à Gap-Talardurance, c'est ce qui se prépare. Et puis c'est qu'il y a aussi beaucoup moins de monde qui veut être élu, qui veut s'impliquer dans la vie citoyenne, associative, politique, municipale. Donc quand même, il faut travailler à ça. C'est pour ça l'importance aussi d'être bien entouré, d'avoir une liste cohérente, quoi. C'est-à-dire, bon, bah là, il y a des partis qui soutiennent la liste, c'est super, hein. Je préfère qu'ils soient avec nous que contre nous. Donc c'est déjà une première satisfaction. Mais il faut surtout trouver des personnes. Il y en a 43 sur une liste, 43 personnes compétentes qui demain, bah, voilà, sont capables d'être adjoints et adjointes, vice-présidents et vice-présidentes à la communauté d'agglomération, conseils municipaux délégués, et qui savent ce que c'est que d'assumer des responsabilités. Donc pour ça, il faut aller chercher les compétences, bah, à la ville, où elles sont, c'est-à-dire il y a les milieux économiques, il y a les chambres consulaires, il y a les associations, il y a des gens qui gèrent des clubs de sport, par exemple, il y a des gens qui gèrent des grosses assos culturelles, et les compétences, elles y sont, quoi. Mais voilà, il faut aller les trouver, il faut aller les chercher. Et puis, je suis le premier à dire aussi que ce qui s'est fait à la ville, hein, avec Roger Didier, il y a des bonnes choses qui se sont faites, hein. Je veux dire, moi, je suis pas un critique à 100% du temps. Par contre, bon, quand le bas blesse sur des dossiers, il faut le dire. Mais Roger Didier, il a fait de bonnes choses.
Par contre, de la manière dont tu parles, on a le sentiment qu'il y a un problème d'encadrement, quoi.
Bah, ça, puis il y a un problème de confiance, quoi. Je veux dire, si on veut que les équipes, elles donnent le maximum de leur potentiel, et je parle à des gens qui savent ce que c'est que gérer une entreprise ou autre, si on veut que les équipes se donnent à 100%, il faut aussi leur faire confiance, il faut aussi leur donner de la capacité d'initiative. Et ça, la ville de Gap, on l'a complètement perdu, quoi. C'est-à-dire, on a un fonctionnement qui est phagocyté, qui est complètement à l'ancienne. Quand un chef de service ne peut pas avoir une signature pour un chèque de plus de 100 euros, ça ne peut pas fonctionner dans une ville de 40 000 habitants, plus la communauté d'agglomération, parce que beaucoup de décisions se prennent quand même à cette échelle-là. Hein, et aujourd'hui, à Gap, on a du mal à l'envisager.
Ça peut aussi éviter des débordements éventuels. Hein,
S'il y a des débordements, après, il y a des sanctions qui s'appliquent et il faut les condamner. Mais il faut quand même surtout donner de l'initiative et donner de la liberté dans les services, parce que sinon les équipes, bah forcément, elles ne s'investissent plus. Et puis il y a besoin aussi, je pense, au niveau de cette équipe, au niveau de cette ville, d'un peu de rajeunissement et d'une nouvelle page qui s'ouvre.
On a un chef d'entreprise justement autour de la table, Pierre Véroni.
Eh oui,
paraît-il,
ouais. Ouais, depuis bientôt 40 ans, donc j'ai envie de dire, je connais un peu la musique, mais ça m'arrive souvent de chanter ou de jouer faux, parce que ce n'est pas une science exacte d'être dirigeant. Et quand je t'écoutais, avec beaucoup d'intérêt, puisque j'ai entendu souvent parler de toi, mais je ne te connaissais pas. Alors pardon, je lui ai demandé si je pouvais le tutoyer.
Mais de toute façon, c'est le coq à l'âne.
Le
coq à l'âne, on tutoie tout le monde.
Il est tellement jeune.
Si demain, on a Emmanuel Macron là, ça sera tu, hein. Avec une petite bière, et puis c'est tout.
Oui, il y a quelques années en arrière, j'aurais été ravi de pouvoir discuter avec lui. Maintenant...
C'est le plus compliqué.
Je suis pas sûr que j'en reviendrai pas tout de suite aux mains, alors. Non, je plaisante. Je suis pas comme ça du tout. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur quelque chose que j'ai observé dans ce que tu viens de dire là à l'instant. Dans ton propos, j'ai retenu que tu ne sous-estimais pas l'adversaire. Ça, c'est intelligent, parce que tu as quand même en face de toi quelqu'un qui, pour le coup, je pense, est un gros travailleur et a en plus de l'expérience. Et l'expérience, enfin, ça fait un peu réac de dire ça, mais pour moi, c'est quand même important. Hein. Voilà. Et tu ne le sous-estimes pas et tu ne le dénigres pas non plus. Ça, je trouve que c'est sportif. Voilà. Et c'est bien parce que c'est une compétition. C'est une compétition où il n'y a pas un qui est bon et l'autre qui est mauvais, surtout dans les idées, parce que... Là, pour l'instant, on parle de programme. Moi, comme chef d'entreprise, par exemple, je me dis souvent, les choses qui sont importantes, c'est le cap, c'est là où on veut aller, sachant qu'on n'y arrivera jamais. Vraiment, on n'y arrivera jamais. Et la façon de faire devient pour le coup quand même importante, sachant que personne ne connaît la manière de faire. Ce qui est important, c'est le résultat. Et le résultat, ce n'est pas souvent le cap. Donc, voilà, tu as certainement de bonnes idées. Moi, ce que je peux dire, enfin, certainement, tu vas nous en parler. Ce que je peux dire par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à présent, je le dis de manière un peu détachée parce que depuis bientôt 2 ans, je ne suis plus Gapensé. c'est que avec tout ce qu'on a dit sur Roger Didier, moi j'ai quand même trouvé que au niveau du résultat, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Alors c'est vrai que moi, quand je discute avec lui, j'ai pas l'impression que ce soit un monsieur avec
un tortionnaire.
Ouais. C'est, alors, et je me dis tellement, parce que je suis quand même un peu public, et j'entends souvent des gens critiquer par-ci, par-là, d'autres personnes que je connais. On peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Mais je pense que si vraiment on a un tortionnaire, on reste pas longtemps en place. Alors, après, quand t'es chef d'entreprise, puisque on faisait une analogie par rapport à cette mission qui est chef d'entreprise, qui n'est pas plus dure qu'une autre, mais à un moment donné, il faut savoir être là quand il faut, et même quand c'est pas drôle. Tu parlais des délégations qui sont données à 100-200 euros. C'est vrai que ça paraît très curieux, parce que je ne connais même pas le budget de la ville de Gap, qui est de...
On est à peu près à 40 millions.
Donc c'est énorme. C'est énorme. Mais en même temps, justement parce que c'est énorme et que ce ne sont que des fonds publics, puisque c'est de l'impôt qui est levé, des subventions, etc., eh bien je pense qu'un dirigeant, que le maire est, il doit encore faire plus attention que si c'était un simple chef d'entreprise, parce que je critique souvent les politiques, et Dieu sait que enfin c'est tellement facile aussi avec les bêtises qu'ils font.
Oui, tu veux dire qu'en fait, ils gèrent avec l'argent qui n'est pas le sien.
Si tu veux, pour moi, je plutôt que de critiquer le fait que les délégations sont de 100 ou 200 euros, parce qu'après tout, tu m'aurais dit 1000, je les aurais trouvées déjà basses. Mais je pense qu'il sait ce qu'il fait, et je pense que ce qui est important, c'est le résultat. Si, pour l'instant, il n'y a pas d'argent qui est mal dépensé, et que des histoires dont tu parlais comme un futur probable, c'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui fait des bêtises, et ben il sera sanctionné, tu vois, ben finalement, il n'y a peut-être pas de personnes qui ont été sanctionnées à Gap, parce que justement, il fait ça. Donc, c'est sur l'efficacité, moi, je me dis, ben, il est efficace, parce qu'il n'y a pas de dossier où on pourrait lui dire, ben, vous avez vu, il y a des gens qui ont dépensé n'importe où, n'importe
quoi. Il y a un dossier, justement, au niveau du terrain, le fameux terrain dont tu parlais tout à l'heure.
Cristaille. Ah mais ça, c'est un sujet juste pour rebondir quand même sur ce que tu disais sur l'aspect sportif et fair play. Moi c'est un truc que je dis souvent en conseil municipal, c'est je critique pas l'homme, je critique pas Roger Didier, quand je parle à la fonction, je parle au maire de Gap. C'est quand même pas pareil parce que c'est important pour moi d'avoir beaucoup de respect dans la manière dont on traite les dossiers. Par exemple sur Cristaille, on n'a pas été d'accord, mais il n'y a jamais eu un mot personnel ou quelque chose d'ad hominem ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est hyper important d'entretenir ce climat-là parce qu'en fait, les élus, quand on voit des fois le spectacle qui est donné à l'échelle nationale, si à l'échelle locale, on peut s'épargner ça et montrer qu'on est capable de débattre en se respectant, ça c'est quand même hyper important. Après sur la question des délégations de signature, et sur cette, l'initiative en général qu'on peut laisser aux agents, il y a aussi un problème d'échelle. C'est-à-dire que le maire dans une ville de 40 000 habitants, il ne peut pas être omnipotent, et c'est pas lui, ça devrait pas être son rôle de dire ok, je valide l'achat de 10 ramettes de papier au lieu de 5, de fournitures en fin d'année pour les écoles pour boucler l'année ou autre. Il y a des échelles, il y a des directeurs de service, il y a un directeur général des services, il y a un maire, il faut trouver ce juste milieu en fait. Et moi c'est ça qui me gêne un petit peu dans le fonctionnement actuel. Et nous, on aimerait faire un peu différemment. C'est que moi, quand je vais au conseil municipal, le maire de Gap, il est béton sur ses dossiers. Je veux dire, il peut nous parler de n'importe quel sujet pendant 15 minutes, 30 minutes, lancer sur le sujet, et je lui reconnais en fait cette qualité.
C'est une vraie qualité, parce que c'est un vrai bosseur, et les dossiers, il les connaît. Je pense que le week-end, il fait pas que se balader,
par contre, si
il
tu
travaille
veux,
vraiment
le petit
ses dossiers.
Aspect négatif, du coup, c'est qu'il est à la tête d'une équipe d'élus d'un peu plus d'une trentaine de personnes. Ils sont 34 en tout. Et c'est que du coup, sur l'ensemble de cette équipe, quand on est en conseil municipal, quasiment aucun des adjoints ou aucun des conseillers municipaux ne s'exprime sur les dossiers. Et pour moi, c'est là où il y a un problème. C'est-à-dire que quand tu as toutes les compétences, connaissances des dossiers, responsabilités qui sont entre les mains d'une seule personne et d'un seul homme, il y a un vrai risque. Alors déjà, tout simplement, si la personne n'est plus en capacité, pour une raison X ou Y, d'assurer son mandat, là, l'équilibre est fragile. Et puis c'est important aussi, des fois, de savoir un peu déléguer, partager la responsabilité. Ça fait partie d'un fonctionnement sain d'une équipe. Mais après, effectivement, je reconnais une connaissance des dossiers qui est béton. Après, on est sur la fin de mandat. Peut-être, je ne sais pas si c'est une fin de cycle. Moi, c'est comme ça que je le vois, parce que ça fera en 2026, ça fera 19 ans qu'il sera à la tête de la commune. Avant, il était adjoint de Pierre-Bernard Raymond. Et sur la fin de mandat, on voit qu'il y a quand même des décisions qui arrivent qui sont plus forcément rationnelles. Je dirais le choix du terrain de Cristaille, la manière dont ça s'est passé. On nous amène un dossier au conseil municipal. Et au début, on nous dit, ce sera pour renforcer la ceinture verte de la commune. Je vais acheter 67 hectares. Donc, c'est des taillis, c'est en pente. C'est pas des jolis terrains. 2 100 000, ce qui fait un prix délirant, quoi. Donc bon, nous on l'interroge, on dit mais qu'est-ce que vous voulez faire? Donc après on a des gens dans les services de la ville et autres qui nous communiquent les informations. Donc avant qu'ils nous le disent, on nous a parlé d'une plateforme de traitement des boues et autres, ce qu'il faut faire, hein, je veux dire, c'est le sujet que la commune doit traiter. Mais déjà il y a un problème de sincérité au début, c'est pourquoi ne pas admettre dès le début de la présentation du dossier qu'on va faire ça à cet endroit-là. Je veux dire, il n'y a rien de scandaleux de faire une plateforme de traitement des boues, et d'ailleurs personne ne s'est opposé sur le fond du sujet.
Je pense que c'est plutôt une bonne idée, parce que c'est justement des projets qui sont visionnaires, parce que ça va être un vrai problème. Les déchets, le retraitement, l'environnement, c'est un vrai problème, et on ne peut pas tout le temps le laisser... au privé, parce qu'on sait que les gens, finalement, ça coûte. Il faut peut-être qu'un bon service bien géré, parce qu'il y a quand même des gens qui sont quand même des choux gras sur les déchets, sur les choses comme ça, et c'est quand même compliqué.
Moi, aussi,
pour le vivre régulièrement, c'est... Donc, moi, le projet de Cristail, je suis d'accord que sur la méthode, il y a peut-être un problème. Sur le fond,
c'est ce que dit Élie.
Et la vision, elle est quand même pas déconnante.
Sur le fond, c'est bon. Par contre, c'est sur le prix, quoi. Genre, quand la SAFER estime le terrain à 400 000 euros au lieu de 2 100 000, un maire, ça doit être le seul en France, hein, qui achète un terrain 5 fois plus cher que sa valeur, il y a un vrai problème là, d'utilisation, pour le coup, de l'argent public. Où on se dit, mais
c'est très étonnant quand on sait qu'il a toujours dit, Roger Didier, qu'il dit toujours gérer le mieux possible en bon père de famille. Et comment tu expliques ce raté?
Ben, j'ai beaucoup posé de questions au conseil municipal. La dernière fois, on a eu un échange, je crois, quasiment bilatéral, puisqu'il y a presque que le maire et moi qui nous sommes exprimés là-dessus, d'une heure et demie. Et j'ai toujours pas de réponse, en fait, sur le pourquoi, au début du dossier, il y a ce prix-là qui a été proposé. Et en fait, on a le même problème, Plaine de la Chaux, là où il y a un projet de plan d'eau. Il y a des terrains qui ont été achetés, des bois en pente, avec un dénivelé important, 18 000 euros l'hectare. Et là, ça fait... à diviser le prix encore une fois par 5. Donc j'arrive toujours pas à m'expliquer, et je connais le maire, je veux dire, je sais que c'est pas quelqu'un de malhonnête, donc j'exclus l'hypothèse pas de copinage ou autre, mais du coup j'ai toujours pas, en fait, d'explication rationnelle. Et moi j'ai posé des questions, et on a conseil municipal lundi 16 décembre. Je reposerai encore une fois la question, parce que j'ai toujours pas de réponse sur pourquoi on a les collectivités, les communes, tu le disais, enfin je veux dire, sont à l'os en termes de financement, de ce qui arrive de l'État, des subventions, des agences de l'État et autres. Donc pourquoi on se lance dans des projets où on achète des terrains à 5 fois le prix? C'est, je veux dire, c'est compréhensible pour personne. Moi, demain, si je veux construire une maison sur un terrain nu qui est à 150 000, je vais pas aller le payer 5 fois plus cher, quoi. Je veux dire, donc pourquoi faire ça pour une commune?
Oui, mais justement, est-ce que, donc là on parle de terrain agricole, puisque tu fais référence à la SAFER, ça veut dire que ce terrain, il ne pourrait pas être autre chose?
Si.
Ah, donc, parce que quand il est évalué par la SAFER, c'est pour qu'il reste un terrain agricole.
Pas forcément.
Alors, c'était ma question d'avant. Donc, ça veut dire que parce qu'on est d'accord que ce qui fait le prix de quelque chose, c'est surtout ce à quoi ça va te servir.
Oui,
puisque c'est l'offre et la demande qui fait un prix. Oui.
Alors, moi, vas-y, Bruno.
Je suis pas un spécialiste, mais le fond de ma question, c'est est-ce que ça peut impacter des vendeurs de terrain que le prix soit 1 ou 5? Et si effectivement il y a des métiers, et je les citerai pas, dont l'impact pour eux serait négatif, c'est peut-être compréhensif qu'ils fassent un petit peu de lobbying auprès d'une municipalité en disant monsieur le maire, n'oubliez pas que à ce prix-là, c'est pas bon pour nous. Après, il écoute ou il écoute pas, et je ne vise personne puisque je suis pas un spécialiste, encore une fois. Mais la seule chose que je sache, c'est pour ça que voilà, je vous pose la question, la SAFER, elle a son mot à dire si ça doit rester un terrain agricole. Enfin, elle a son mot à dire. On écoute son mot si ça doit rester un terrain agricole.
La SAFER, elle est là pour protéger justement le foncier agricole et éviter cette dérive-là de manière et encadrer les prix. Dans le mot SAFER, c'est société anonyme, société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Ça ne veut pas dire que la SAFER n'intervient pas dans l'aménagement rural ou l'aménagement des villes. Elle peut être partenaire des collectivités sur des gros projets structurants sur les villes. Ce qu'il faut simplement, c'est que expliquer pourquoi l'utilité, et on pourrait très bien dans un cas comme ça sortir une partie de la propriété et dire elle est d'utilité publique, donc on tolère un prix supérieur sur cette parcelle-là.
Par contre,
par contre, on va imposer un cahier des charges strict pour préserver l'activité foncière sur le reste. Ça pourrait être fait. Et ce qu'il faut faire, c'est le travail en amont. Le travail en amont, pour pas, parce que la SAFER, c'est un petit peu le gendarme du foncier agricole. Mmh. Hein, et il faut savoir que la SAFER, elle est notifiée sur toutes les ventes qui touchent le premier mètre carré des terrains agricoles. Donc, il faut le travail en amont. Il faut pas vouloir passer en force ou en disant « bon, ben, parce que je représente justement un projet d'utilité publique, je vais pouvoir faire n'importe quoi. » C'est ça. La vraie question de ça, c'est qu'il faut travailler les dossiers en amont et les travailler de manière constructive avec l'ensemble des acteurs économiques, notamment le milieu agricole. Voilà. Moi, je me rappelle avoir fait des dossiers, puisque c'est un dossier quand même que je connais bien, la SAFER, pour avoir présidé le comité technique pendant 6 ans. On peut faire de l'aménagement rural. Nous, on a des mairies qui nous avaient confié à l'époque des lots à urbaniser et qui nous disaient choisissez les meilleurs candidats à l'installation sur ces lots constructibles. Tu peux faire beaucoup de choses, mais il faut toujours préserver globalement l'intérêt agricole, parce qu'il faut voir que la SAFER ne décide pas d'elle-même. Elle est contrôlée par le commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, c'est l'État. Hein, c'est les domaines, c'est l'évaluation des domaines. Donc, il y a une double pince, si tu veux. Le comité technique ne peut pas faire n'importe quoi. Et il y a un réel contrôle de l'État sur la SAFER.
Non, Pierre-Louis, je te sens perplexe.
Non, c'est pas ça. Parce que comme je suis pas un spécialiste, je pose des questions. Je sais que quand on achète un bien, on est obligé quand même de se dire, de se poser la question de ce qu'on va en faire, comme je le disais tout à l'heure, et même le après. C'est-à-dire que il y a un problème de fiscalité lorsqu'on revend un terrain que l'on n'a pas payé très cher, ou plutôt qu'on le revend beaucoup plus cher que ce qu'on a acheté. Et donc je me dis que c'est aussi sain qu'un maire puisse se poser la question suivante. Ok, j'achète un terrain 1. Si demain, parce que je donne l'affermage à une société qui, à un moment donné, parce que ça va être dans l'air du temps, décide de privatiser ce service-là complètement, et qu'elle me dit ben, « moi je veux tout, y compris acheter le terrain », eh bien, la municipalité, là où elle pourrait, peut-être que ce n'est pas possible, hein, amortir le prix d'un terrain parce qu'il est cher et l'amortir pendant de nombreuses années, ne pourra pas amortir la fiscalité qu'elle devra donner tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, dans 10 ans, elle aura amorti la moitié de son terrain. Si dans 10 ans, elle revend son terrain, elle va payer une fiscalité. S'il y a de la fiscalité, je ne suis pas un spécialiste. Hein. Oui, je te regarde parce que toi, tu dois avoir les réponses. Mais,
c'est le propriétaire qui l'a payé, la fiscalité.
C'est
en
ça.
Général.
C'est ça. Donc, la mairie l'achète. Elle le revend parce qu'il est bâti, parce que là, la SAFER, elle n'a plus rien à dire. Elle le revend 5, elle va payer de la fiscalité de 2 à 4. Et ça va être très cher. Et ça, elle devra l'amortir tout de suite. Mmh. Alors qu'un terrain, non.
Il y a quand même, sur le dossier de Cristail, nous, il y avait un risque sur le prix du foncier agricole, parce que finalement, malgré la destination du terrain, ce que tu achètes au plan local d'urbanisme, au PLU, c'est de l'espace naturel, c'est de l'espace agricole, c'est de l'espace économique.
Et mais donc, il reste agricole même,
ben justement, il y a un débat, mais moi, si la mairie en fait anticipe, et là c'est un peu ce que j'ai pu reprocher au maire sur ce dossier, c'est que le dossier du traitement des boues à Gap, il a pas émergé maintenant, quoi. C'est des dossiers de fond qui arrivent, qu'on voit monter petit à petit, et un jour on se dit bon, on va falloir les traiter parce que ça va plus passer, quoi. Et dans ce cas-là, pourquoi ne pas anticiper? Pourquoi ne pas passer l'espace dans le PLU, éventuellement en zone économique ou autre, modifier le PLU en amont? Et ne pas le laisser en agricole et l'acheter en agricole, ce qui déjà rentre dans les prérogatives de la SAFER. Et puis, il y a un vrai risque d'explosion du foncier agricole. On a déjà une difficulté d'accès à la terre pour beaucoup d'exploitations agricoles. Gap, qui est quand même la première commune agricole du département. Donc, il faut vraiment qu'on soit attentif à ça, parce que sinon, si on part, il y a déjà eu en plus deux cas de figure, hein. Cristail, la plaine de la Chaux, où à chaque fois on est à peu près à 5 fois le prix. Dans ce cas-là, anticipons plutôt, changeons les dénominations sur le PLU. Moi, je ne suis pas forcément favorable, mais si on veut aller où la logique, c'est ça qu'il faut faire. C'est on change le PLU en amont, et ensuite, on va au bout du sujet et on fait l'acquisition sur le bon type de... la bonne qualification des nominations du terrain.
Ah,
bon,
en tout cas, il y a un agriculteur qui va être content si on l'achète 5 fois le prix.
Sujet, comme vous l'avez pu l'entendre, très technique, n'est-ce pas ? Eh ben, on aura la réponse au prochain conseil municipal. Hein,
j'espère.
Peut-être, tu nous diras.
Tu as remarqué quand même, il est bon quand même, parce que et mettre de côté tout de suite le fait qu'en connaissant notre maire, il ne peut pas penser... qu'il y a une petite entourloupe dessus.
Ouais, ouais, ouais.
C'est assez remarquable parce que le nombre de fois où j'ai entendu ici, à cette table, des gens, mais alors ne pas se gêner pour le critiquer, là, chapeau. Hein,
parce que, encore une fois, c'est de la politique, quoi. C'est pas du personnel. Pour moi, c'est hyper important. C'est pas la personne, c'est de la politique. Alors, moi, je fais ça avec les autres. Et j'attends aussi des autres qui
fassent la même chose.
De même avec moi, ce qui n'est pas toujours le cas. Mmh. Mais pour moi, c'est un principe hyper important. Sinon, la démocratie, elle n'est déjà pas forcément dans un état flambant. Mais j'ai peur qu'on aille vers pire, quoi.
Tiens, y aura-t-il cérémonie de vœux avec Roger Didier ou est-ce qu'il va faire comme Daniel Spagnou et Camille Galtier
Il y a les vœux du maire vendredi 13 décembre.
Donc c'est toujours maintenu.
J'y serai présent. Oui, c'est toujours maintenu. C'est pas comme dans le 04. Ici, dans le 05, il y a une tradition des vœux.
Tradition des vœux. Voilà, absolument. Allez, oui.
Une dernière question quand même. Par rapport à. Pardon, mais je devrais peut-être davantage suivre ce qui n'est pas le cas. C'est pas parce que ça m'intéresse pas, parce que si j'étais à la retraite, je pense que ça m'intéresserait, mais j'ai malheureusement d'autres chats à fouetter. Encore que je n'ai pas de chat. Et si j'en avais, j'aime bien fouetter, mais pas les chats.
C'est dangereux, ça.
Là,
ouais. Fouetter son chat, c'est dangereux.
Ouais. Non, tes relations avec le maire de Gap, elles sont cordiales. Elles sont comment ? Parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait... Le mieux pour tout le monde, c'est qu'il y ait quand même une continuité. Alors, c'est vrai que dans le programme, on voudrait que tout le monde y voit une rupture pour se dire, oui, ça sert à quelque chose de changer. Mais en vérité, quand même, les ruptures, elles sont nécessaires quand on veut faire la révolution. Mais encore faut-il en avoir vraiment la nécessité. Et c'est à mon avis pas toujours le cas, et c'est bien quand même qu'il y ait une continuité, d'autant que dans ton propos tout à l'heure tu disais qu'il y a des choses qui ont été faites qui sont bien. Donc. Et pour qu'il y ait une continuité, il faut être un peu bien avec...
Après pour moi, déjà rupture ne vaut pas forcément révolution, et surtout il peut y avoir une rupture sur des sujets de fond, des transitions importantes, parce que quand même à Gap il y a aussi des choses qu'il faut faire bouger, qu'il faut faire évoluer, parce que franchement la ville quand même s'endort, elle s'est coupée de tout un tas de relais, de réseaux, tous les projets qui sont à Gap se font en autofinancement, parce que comme la mairie est fâchée avec beaucoup d'autres élus, d'autres institutions, et ben on fait plus rien, les projets sont pas financés par les autres, et ça repose tout sur la fiscalité des Gapensés, donc il y a quand même un sujet important de ce côté-là. Mais je veux dire, faire des ruptures politiques sur des sujets, ça n'empêche pas une continuité dans la transition des dossiers. Je veux dire, le but, c'est que si nous, on a la chance, et moi j'aspire à ça, c'est-à-dire qu'on gagne la mairie en 2026, l'idée c'est qu'il y ait une vraie continuité et au niveau des élus et au niveau des services. C'est-à-dire que par exemple, l'ancien adjoint à la culture fasse passer les dossiers au nouvel adjoint à la culture. Le directeur de tel ou tel service, s'il est amené à changer, parce que ce qui n'est pas forcément le cas, puisse transmettre aussi les dossiers à son successeur. Donc, rupture politique, oui, parce qu'il le faudra sur certains sujets, pas sur tous, mais sur certains. Et par contre, que ça puisse se traduire par une transition tranquille. Mais il y a du respect avec le maire, donc je n'ai pas de doute là-dessus sur le fait que la transition soit efficace.
C'est bien.